Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bienvenue pour une grande tchatch très spéciale. Une émission particulière car enregistrée hors les murs à la Fabrica, le lieu de répétition du Festival d'Avignon. Un rendez-vous exceptionnel car l'invité de l'émission politique du mensuel Le Ravi ce mois-ci, c'est Olivier Py, le directeur du festival. Et même à l'absence de Rafi Amal, co-animateur de ce rendez-vous, respectons une tradition, le portrait de notre invité. Le style, c'est l'homme, disait Buffon. Que les fans de l'Euro 2016 me pardonnent, mais je ne parle pas ici du goal de la Juventus. Un peu de sérieux, voyons, je cite Buffon, le grand naturaliste du XVIIIe siècle. Votre style donc, Olivier Py, les journalistes qui vous adorent, et qui adorent vous détester, le qualifient de flamboyant, de baroque, de multiforme. De fait, vous présenter est aussi simple que de calculer le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre dans un plan euclidien. En s'en tenant à 14 chiffres après la virgule, vous êtes donc à la fois comédien, directeur, dramaturge, bouffon, metteur en scène, poète, gestionnaire, féru d'art lyrique, chanteuse de cabaret, catholique, homosexuel, romancier, lyrique, engagé. Vous êtes le off du Festival d'Avignon, ils vont apprécier, où vous avez débuté sur scène en 88, vous aviez alors 23 ans. Vous êtes surtout le directeur du IN depuis 2014, l'année de vos 49 ans. Le patron d'un des plus grands festivals de théâtre au monde, c'est vous. Le premier artiste à le diriger depuis Jean Villard, son fondateur, c'est encore vous. La région PACA ne vous est pas inconnue. Né à Grasse, dans une famille pied-noir, vous avez passé votre bac à Cannes. À Paris, vous avez déjà accumulé les expériences au cours de vos années d'apprentissage. Une cagne, des études de philo et de théologie pour vos humanités. L'ENSAT et le conservatoire pour vos études théâtrales. La direction dans les années 2000 du théâtre de l'Odéon n'a pas ralenti le rythme de vos publications et de vos créations. Vous avez écrit et adapté 34 spectacles, publié 26 livres, mis en scène 15 pièces, 35 opéras. Vous avez joué dans 15 pièces, 9 longs-métrages, 5 courts-métrages. Vous avez même réalisé un téléfilm et fait une apparition dans un épisode de Navarro. Si je ne me trompe pas, j'en oublie probablement. Si la crainte d'assommer définitivement les auditeurs ne nous avait pas freinés, nous aurions également listé vos tribunes et autres interventions dans le débat public. Disons simplement, pour conclure, qu'il y ait souvent question de politique culturelle, bien entendu, mais aussi de politique tout court. Comme dans l'éditorial du prochain festival que vous placez sous le triple parrainage de la révolution, de l'utopie et de l'espoir. Rien de moins.
Eh bien oui, tout ça est à peu près juste, si ce n'est que j'ai commencé dans le off en 85 et pas en 88. J'ai commencé dans le in en 88.
Il y a une erreur, il fallait qu'il y ait une erreur. Les journalistes ne sont pas fiables, on le sait.
Sinon, c'était parfait.
Très bien. Ce triptyque-là, ce parrainage, triple parrainage, révolution, utopie, espoir, et cet édito qui parle de politique, quel sens ça a dans le moment qui est le nôtre ?
Je me suis rendu compte qu'il y avait des interprétations très différentes de cet édito. Effectivement, il est peut-être un petit peu complexe. Ce que j'essayais de dire, c'est quelle est la place d'un homme qui veut être engagé, mais qui voit que c'est difficile, que c'est devenu difficile. Et je trouve que c'est difficile de faire de la politique aujourd'hui. De la politique au sens noble, évidemment. De la politique politicienne, ça, on peut toujours en faire. Et ça ressemble un peu à mon histoire, parce que je suis peut-être venu au théâtre parce que ça me semblait difficile de m'inscrire dans les mouvements politico-historiques, néo-marxistes, qui étaient ceux de mes pères. Voilà ce que je propose. Alors je dis, ben, si vous n'arrivez pas à faire de la politique, peut-être c'est à cause de l'histoire, c'est peut-être pas à cause de vous, c'est peut-être pas parce que vous n'êtes pas pur ou pas noble, au contraire, mais vous pouvez toujours faire quelque chose, c'est vous réfugier au théâtre. Parce que là, tout au moins, l'espoir politique ne meurt pas. Alors, c'est peut-être pas encore de la politique en acte. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que le théâtre sauve le monde. Mais en tout cas, il peut sauver l'espoir. L'espoir de sauver le monde.
C'est ce que vous disiez dès 2014, dès votre arrivée, première conférence de presse. Vous disiez, le Avignon, c'est pas là pour le patrimoine, c'est pas là pour le divertissement, c'est pas là pour le spectacle. Mais c'est une dialectique, c'est être au monde. Et vous parlez déjà de l'horloge de la conscience politique.
Oui, mais à cette manière très étrange qu'a le théâtre de nous convoquer à la conscience et qui est toujours une fête. Il faut faire attention, parce que quand le théâtre devient du théâtre politique, strictement politique, je ne suis pas sûr que ça fasse du très bon théâtre. Moi, sincèrement, je trouve les pièces de Sartre souvent assommantes. Le théâtre d'idées, c'est certainement le plus mauvais théâtre qu'on puisse faire. Non, il faut qu'il y ait une joie qui nous dit, cette joie nous dit, ah mais oui, c'est possible, on peut faire des choses. On peut les faire sur scène, mais on pourra aussi les faire dans la rue, un jour, demain, tout de suite.
Alors, c'est un petit peu la règle du jeu de cette émission. On parle politique, on va parler évidemment de théâtre. Vous dites des mots forts quand même. Vous dites la politique aujourd'hui est sans espoir, oublieuse de l'avenir.
Oh oui, enfin quand je dis la politique, je veux dire la politique telle qu'elle est faite par les partis politiques aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à dire qu'il y a une véritable crise de la représentation, qu'il y a une crise du politique. Peut-être que c'est le politique en général qui déserte le monde parce qu'on a l'impression qu'il est entièrement inféodé à l'économie. Moi, quand j'entends les hommes politiques parler, souvent, la plupart du temps, j'entends des gestionnaires ou des syndics de faillite. J'entends pas ce que j'appelle un homme politique. Avant de savoir si on a les moyens, il faudrait savoir quelle société on veut. Avant de savoir si elle est pragmatique ou pas, déjà savoir quelle société on veut. Or, on fait exactement l'inverse. D'ailleurs, on ne les résout pas non plus les problèmes économiques, mais on est focalisé entièrement sur l'économie sans savoir quelle société on veut. Moi, je veux bien qu'on augmente le SMIC, je suis absolument pour l'augmentation du SMIC, mais augmenter le SMIC, pourquoi faire? Si c'est pour aller s'acheter un iPhone 7 à la place d'un iPhone 6, je ne vois pas l'intérêt d'augmenter le SMIC. Donc, toujours pareil, la démocratie, oui, la prospérité, tant mieux quand elle est là, mais sans la culture, ça ne sert strictement à rien. La démocratie sans la culture, c'est vraiment la dictature de la médiocrité. Ça peut même être la dictature de l'imbécilité. C'est quand même un système démocratique qui a mis Hitler au pouvoir. Les gens ont voté. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une vision de la cité. Ça, je trouve qu'on le voit de moins en moins chez des politiques pour qui la culture, quand elle est encore là, est un petit supplément d'âme qu'on jette en bas d'un programme pour faire plaisir à quelques soutiens.
On a un peu l'impression que dans le monde culturel, utiliser le mot politique, même pour interroger les limites, hein, de, par exemple, des dérives politiciennes, hein, parler politique, c'est presque un gros mot.
Oh oui, c'est très vrai. D'ailleurs, j'ai eu ce malentendu souvent avec des spectateurs, notamment dans la première année. J'avais des spectateurs qui venaient vers moi, je ne pouvais pas douter de leur sincérité, et qui me disaient « Je vous en prie, monsieur Pi, ne faites pas de politique ». Alors, je ne comprenais pas, parce que pour moi, la politique, évidemment, c'est noble. Et puis, je crois que c'est ma manière de faire de la politique. C'est certainement de faire du théâtre ou de l'art. Mais ce qu'il voulait dire, ce n'était pas de la politique politicienne. Ne devenez pas comme ces politiciens auxquels on ne croit pas, auxquels on ne croit plus, dont on a l'impression qu'ils ne travaillent que pour leur propre carrière, qui ne partent pas des idées, qui ne partent pas d'un espoir. Ne devenez pas comme eux. Restez un artiste, restez libre. Et que votre parole reste libre. Voilà ce qu'ils voulaient me dire, les gens qui me disaient « ne faites pas de politique ». En fait, ils voulaient me dire « faites de la politique », mais de la belle politique.
Alors, en tant que directeur du Festival d'Avignon, il y a eu, et par rapport à cette problématique politique, il y a eu un acte fondateur et aussi une belle volée de bois vert médiatique des grands médias. C'est votre arrivée, c'était le premier tour des municipales, il y avait un risque de l'élection d'un maire Front National à Avignon, et vous avez pris position très fortement, vous parliez peut-être de quitter la ville si cette ville passait à l'extrême droite. On vous a reproché aussi ce positionnement. Vous avez récidivé plus tard vis-à-vis du Front National. Est-ce que le Front National, est-ce qu'il faut en parler aussi, quitte à lui faire de
manifestement, la stratégie de la gauche, ça a été la stratégie du silence. Est-ce qu'elle a été payante? Puisque c'est beaucoup la gauche qui m'a dit, mais il fallait vous taire. Bon, moi je crois quand même que j'ai fait gagner quelques points à la gauche dans cette élection, contrairement à ce qui avait été prédit par certains éditorialistes de gauche. Ensuite, est-ce qu'il y avait... C'est ça, je peux beaucoup plus l'entendre, parce que la stratégie du silence, moi, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, est-ce qu'il y avait une autre possibilité? Je me suis très sincèrement beaucoup posé cette question. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un Front National qui remporterait la mairie d'Avignon? On reste pour résister, évidemment, si j'étais resté, ça aurait été pour résister, ou on propose de partir. Bon, tout ça était bien sûr hypothétique. Je continue à penser que c'est bien de rester pour résister. Il faut résister. Mais qu'en l'occurrence, ça n'aurait pas été techniquement possible, et le festival serait devenu la vitrine du Front National, ce que moi je n'aurais pas pu assumer, bien évidemment. Il y a peut-être d'autres gens qui pouvaient l'assumer et qui auraient appelé ça de la résistance. Mais la vérité, c'est que faire la résistance en allant tous les jours demander les armes à ses ennemis, ça me semble difficile.
Alors, dans le Vaucluse, il y a un cas de figure, c'est Orange, avec une municipalité qui n'est plus Front National, mais qui est d'extrême droite, c'est presque la droite du Front National. Bon, il y a toujours les corrigés.
Oui, ça n'a pas bien fini d'ailleurs, visiblement. C'est pas tout à fait comparable, à mon avis, Orange. Ni le public, ni l'objet du festival n'est comparable.
Est-ce que ça, c'est justement pour faire lien à ce qu'on disait auparavant, est-ce que c'est lié à la matière théâtrale et à votre matière théâtrale ? Est-ce que cette dimension...
J'aime pas trop la formule de matière, parce que je crois que c'est vraiment de l'humain. Ce qui fait Avignon, je ne cesse de le dire, et je le répéterai jusqu'à l'ennui s'il le faut, c'est le public d'Avignon. Ce n'est pas de la démagogie quand je le dis. Nous avons cette année, par exemple, foudroyé les résultats jamais archivés sur la vente des places au festival. Mais c'est ça qui fait qu'on a confiance et que, par exemple, le spectacle de Maëlle Poésie, qui était assez inconnu du public d'Avignon, puisqu'elle n'était jamais venue à Avignon, a tout de suite été plébiscité. On a presque vendu toutes les places dans les quelques premiers jours. Mais ça, c'est la force du public. Pourquoi ? Parce que Maëlle Poésie propose une parabole dans laquelle, au cours d'une élection, on découvre que 80% des gens votent blanc. Ben, ce seul petit récit, comme ça, a accroché le public. Donc là, je vois la force du public d'Avignon. Le public d'Avignon, c'est un public militant. C'est un public engagé, c'est un public militant. Donc c'est d'abord eux. C'est eux qui sont le festival, d'abord.
Votre premier festival a aussi été traversé par une difficulté. Alors, il semble que cette année, ça ne sera pas le cas. On peut en parler quand même. Il y avait un mouvement des intermittents. Ils sont toujours en mouvement. Vous êtes aux côtés de ces intermittents, de ces précaires aussi, qui, aux côtés des intermittents, réclament des garanties sur leur régime.
Bah, je l'ai toujours été. Je dirais même qu'à une certaine époque, j'ai même été le seul. Je l'ai toujours été. Puis je me considère moi-même comme un futur intermittent. J'ai été intermittent et je le serai peut-être à l'avenir. Il est bien évident que... on ne peut pas imaginer une politique culturelle, une politique du spectacle digne de ce nom sans l'intermittence, qui, il faut le rappeler, a été un choix politique à un moment, et en plus qui est un bon choix politique. Moi, je crois à l'intermittence, je crois à cette flexibilité. Soit dit en passant, si l'intermittence était imposée à tous les secteurs professionnels, je pense que la gauche ne serait pas d'accord. C'est ça qui est étonnant, quand la droite râle contre l'intermittence, parce qu'à vrai dire, c'est un modèle de flexibilité, de confiance entre les patrons, puisqu'il se trouve que dans le domaine du spectacle, les patrons sont pour l'intermittence, et les employés, qui est tout à fait exceptionnel, et qui est même expérimental. J'ai cru, je continue à croire aux propositions des intermittents, de la CIP, comme économie viable. C'était pas des imprécations. C'était simplement faire un autre ratio, construire un autre algorithme pour que ce soit les plus pauvres qui en bénéficient, et pas, et notamment en baissant le plafond, hein, ça a été très important, baisser le plafond. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus riches qui en profitent, mais au contraire les plus pauvres. Donc oui, je continue à trouver que c'était un combat tout à fait juste et légitime.
Et là, vous dites c'est bon, le contillé, le compromis est bon, alors, sauf que le MEDEF ne veut pas le suivre. Donc...
Alors attention, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, très, très, très hautement technique. Quand je parlais d'algorithme, vraiment, c'est le cas. Donc je ne prétends pas avoir toutes les compétences. Donc j'avoue que je me mets derrière les compétences, notamment de la CIP, pour l'analyse vraiment de ce qui est proposé. A priori, moi, j'ai lu sur mon mail les déclarations notamment de M. Churin, qui est un camarade de théâtre. Il semblerait que la proposition a été négociée et qu'elle est gagnant-gagnant pour tout le monde. Que le MEDEF fasse un peu de résistance, c'est pas très nouveau. Là où il y a peut-être un problème supplémentaire, c'est bien sûr pour la signature en général de l'UNEDIC. Mais sur le plan des intermittents, à mon avis, là, on tient quelque chose de vraiment formidable.
Tout à l'heure, vous parliez de politique et de gestion. Ben, en culture, on doit gérer aussi. On est artiste, mais on est aussi directeur. Vous êtes monsieur le patron du festival. Et là, on a l'impression que la culture, les acteurs culturels, les artistes et les acteurs culturels sont soumis à deux injonctions, à la fois de faire des économies, comme ailleurs, avec des réductions permanentes des financements publics, et puis de diversifier leurs ressources, d'être aussi un petit peu les fers de lance d'une économie créative, qui serait peut-être l'alpha et l'oméga de la société de demain, d'une société immatériel. Alors, est-ce que là, on en demande un peu beaucoup aux artistes? Est-ce que l'artiste doit être gestionnaire aujourd'hui, pour vous?
D'abord, un homme de théâtre, c'est déjà pas forcément un artiste. C'est deux choses très différentes. Alors, les hommes de théâtre sont toujours pragmatiques. Dans mon expérience, je vous assure que j'ai trouvé les politiques beaucoup plus hors sol que les hommes de théâtre. Moi, je veux bien jeter l'œil sur les dépenses et la gestion des collectivités locales parce que quelquefois, je les trouve beaucoup moins pragmatiques que mon budget. Et je pense que j'ai géré le budget du festival avec le plus grand pragmatisme. Donc, c'est quelque chose que je ne laisserai jamais dire, notamment aux élus, aux politiques. « Ah, ces artistes, quand même, ils ne sont pas très pragmatiques. Par exemple, ils en veulent toujours plus. » Oui, mais enfin, vous en donnez toujours moins. Et vous en donnez toujours moins et vous en recevez toujours plus. J'ai eu récemment... un élu qui m'a dit « Oui, mais quand même, le festival, vous ne trouvez pas que, quand même, on met suffisamment d'argent ?» Je dis « Vous savez combien nous faisons gagner d'argent au territoire ?» Parce que ça, c'est pragmatique, vraiment, hein, par rapport à d'autres institutions culturelles, tout aussi légitimes, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes retombées économiques. Donc, soyons pragmatiques. Moi, je veux bien être pragmatique avec les politiques et même avec les économistes, et leur démontrer par A plus B, sans aucun doute, l'intérêt économique du festival. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, est-ce que tout est économique? Bah, bien sûr que non, bien au contraire. Même quand on gère un budget, on a des choix à faire. Et ces choix ne sont pas des choix comptables, ce sont toujours des choix politiques. Quand on assassine ici et là en France un festival, quand on coupe les budgets ici et là en France, à un musée, à un théâtre... Ça n'est jamais un choix comptable, ça n'est pas vrai. Quand on voit aujourd'hui que la politique culturelle en France réduit, ce n'est pas un choix comptable. La France n'est pas plus pauvre qu'elle l'était dans les années 50, où s'inventait une politique culturelle incroyable. Non, ça n'est jamais un choix comptable. L'Europe est riche, la France est riche. Par contre, il y a un personnel politique qui croit de moins en moins à la culture. Je suis désolé d'avoir à le dire, et particulièrement pour les quelques hommes et quelques femmes qui font ce métier difficile d'hommes politiques et qui, eux, se battent pour la culture. Parce que c'est souvent eux qui râlent quand je dis ça, alors que c'est eux, à la vérité, qu'il faudrait remercier. Il y en a quelques-uns, ils le font de manière très militante.
Alors, je ne veux pas vous fâcher avec vos tutelles locales en particulier, mais la ville d'Avignon, vous l'avez plusieurs fois commenté, mais je vous repose la question, baisse le budget du festival?
Mais j'ai des très bons rapports avec les tutelles locales, avec Cécile L notamment, parce qu'au moins, elle sait très bien que je dis les choses de manière très franche. Voilà.
Vous désapprouvez ces
baisses ? Bien sûr que je l'éprouve. Enfin, je suis directeur du Festival d'Avignon, je ne vais pas approuver une baisse de budget du festival.
Même donc, si vous explique que la ville est endettée, que ceci, cela.
Je contre-argumente. Voilà.
Donc là, s'il fallait donner un argument, rappeler un argument...
C'est 50 000 euros. Elle dit elle-même que c'est une goutte d'eau. Alors si c'est une goutte d'eau... Pourquoi nous mettre en péril pour une goutte d'eau? Car ça nous met en péril. Car ça nous met en péril parce que 50 000 euros de la ville, 50 000 euros de l'aglo, 30 000 euros du département, bah, au bout du compte, ça fait 130. Et là, 130, ça devient deux ou trois spectacles. C'est tout à fait autre chose. Et deux ou trois spectacles, ça peut mettre en péril un ou deux jours de festival. Donc voilà quels sont mes contre-arguments. Je dis non, ça c'est pas, je ne suis pas d'accord. C'est très simple. Et puis quand, par contre, il y a des... politiques qui veulent aider un peu plus le festival, parce qu'ils ont conscience des retombées économiques, pas forcément parce qu'ils m'aiment bien moi, ou qu'ils aiment passionnément le théâtre, mais parce qu'ils ont conscience que c'est un enjeu économique aussi important, je dis merci, il n'y a aucun doute. C'est très simple, hein, c'est très très simple, un homme de théâtre, hein, on lui pique ses sous, il râle, on lui donne des sous, et il dit merci.
Pour convaincre un élu, le meilleur argument, c'est de leur dire qu'il va y avoir des retombées économiques. C'est plus compliqué de lui expliquer que ça fait sens et que une ville a besoin de culture, de théâtre, d'art, et que c'est ça qui fait peut-être le pétrole. Vous parliez de pétrole, de la richesse d'Avignon. Est-ce que vous n'êtes pas finalement aussi vous conduit à vous mettre sur ce champ-là, c'est-à-dire combien
évidemment.
Ça rapporte, combien ça coûte?
Mais bien évidemment. Bon, par ailleurs, comme vous le disiez, j'ai publié 30 livres de paroles lyriques sur la culture, sur l'art, sur... Bon, j'ai pas passé mon temps simplement à dresser des bilans comptables des retombées économiques de la culture. Mais il se trouve que j'ai aussi cet argument. Si on veut écouter ma parole lyrique, on peut le faire, notamment dans mes spectacles ou mes éditos. Mais c'est un argument, quand même. Il est valable. Je ne veux pas non plus m'en priver. Bien sûr que philosophiquement, il ne s'agit pas du tout d'inféoder la légitimité de la culture, simplement retombée économique. Ce serait désastreux. Je comprends d'ailleurs des amis philosophes qui m'ont dit « Oh, ta formule, le pétrole, c'est peut-être pas la meilleure métaphore, le pétrole, parce que c'est vrai que le pétrole, je l'aime pas beaucoup, moi non plus. Il est polluant, il est dégueulasse, il provoque des guerres partout. Donc c'est, le théâtre, c'est pas du pétrole. Bon, disons de l'or. Mais enfin, l'or aussi, c'est problématique. Philosophiquement, on ne peut pas défendre l'art et la culture simplement sur les retombées économiques. Ça, je suis tout à fait d'accord. L'art et la culture se défendent en soi, puisque c'est le sens même de nos vies qui est mis en cause par l'absence de culture. C'est le sens même de la démocratie qui est mis en cause par l'absence de culture. Culture et éducation. Je suis un peu effaré quand même de ce que je vois. Vous savez que dans les quartiers nord de Marseille, un petit gosse qui a entre 8 et 12 ou 13 ans, pour faire du deal, il est payé 150 euros par jour. Alors, est-ce qu'il a envie d'aller à l'école ? S'il sait qu'il peut gagner 150 euros par jour assez facilement, qu'il va gagner plus d'argent que ses parents, qu'il va peut-être faire vivre sa mère, ses frères et ses sœurs. Franchement, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que ça, c'est pas Pôle emploi hein, qui va résoudre cette question-là. C'est pas Pôle emploi.
D'accord. La politique, alors je ne sais pas si la formule de père fondateur, quand on pense à Jean Villard, mais l'idée de la culture comme outil d'émancipation, cette idée d'éducation populaire aussi, ces mots-là, il n'y avait pas de bataille politique, de combat politique sans combat culturel il y a quelques années en arrière. On a un peu l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Jean Villard... dont je suis le fervent admirateur, j'ai pas attendu d'être directeur du festival pour l'être, ma pensée est en grande partie une lecture de celle de Villard. Villard commet pas d'erreurs politiques. Je m'excuse, mais quand je dis Sartre, je vois des erreurs politiques, et majeures. Quand je dis Aragon aussi, Villard, non. La pensée de Villard, bien sûr qu'il faut la mettre au goût du jour aujourd'hui. Villard, on n'aurait pas eu la même pensée aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a passé son temps à évoluer, à changer, à répondre au réel et à la société. Mais les fondamentaux, à mon avis, sont bons. Il faut donner à tous les moyens de formuler. Et ces moyens-là, on les a par la culture. Ce qu'on donne, c'est la langue. C'est comme ça que j'ai monté ce Prométhée enchaîné. Je pense que la flamme que Prométhée donne aux hommes, c'est la liberté de parole, c'est la capacité à formuler son destin. Si un homme est capable de formuler ce qu'il vit, je viens de là, j'ai vécu ça, mon vécu c'est ça, je suis ça, je veux ça. Si quelqu'un est capable d'accéder à cette formulation, il est déjà en partie sauvé.
Je fais un enchaînement qui me fait moi-même frémir parce qu'on passe de Jean Villard à Prométhée et à Christian Estrosi. Il est venu vous apporter les 50 000 euros que la ville n'avait pas pu abonder.
Il n'a pas dit ça.
Il n'a pas dit comme ça. C'est un petit peu l'idée.
Ah non, nos autres journalistes sont là. La conférence de presse a eu lieu ici. D'accord. Et moi, je suis forcé de dire la vérité. Il n'a pas dit ça comme ça.
Une ligne complémentaire.
Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit qu'il est venu apporter 50 000 euros au Festival d'Avignon. Il n'a pas dit que c'était à la place de tel ou tel retrait de budget. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Il est venu apporter 50 000 euros au Festival d'Avignon. Ben... voilà, c'est bien. C'est bien qu'un homme comme Estrosi comprenne qu'il y a un enjeu dans cette région. Je l'avais vu un an plus tôt, je lui avais rappelé qu'il vivait sur la Côte d'Azur. Moi, je suis originaire de la Côte d'Azur, et ici, c'est le Vaucluse. Bon, c'est un peu comme comparer l'Alabama à la Californie, hein, dans un espace très très petit. Franchement... Montclar, c'est plus pauvre que les quartiers nord de Marseille. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas le même discours.
Pour nos auditeurs, on enregistre cette émission à La Fabrica, qui se trouve à Montclar.
Oui, à 900 mètres des remparts. Voilà, c'est tout
quartier
à fait...
Quartier populaire d'Avignon.
Quartier populaire, quartier pauvre. Et un peu plus loin, la Rocade, encore plus déshéritée. Nous faisons beaucoup de choses avec eux, parce qu'on pense que c'est important, que c'est l'engagement même du festival d'être à cet endroit-là. Donc oui, il est venu aider la culture, très bien. C'était intéressant hein, d'ailleurs de voir comment, dans le dialogue qu'il a eu avec Mademoiselle Le Pen, la question du Festival d'Avignon est revenue. Bien sûr.
Là,
il s'est engagé à ce moment-là, hein. Il s'est engagé à soutenir le Festival d'Avignon. Donc quand il est arrivé à la présidence de la région, il a soutenu le Festival d'Avignon. Je l'en remercie, bien évidemment.
Vous l'aviez soutenu au second tour, hein, comme pratiquement tous les...
Non, pas tout le monde. Moi, j'ai clairement dit, il faut voter Estrosi, puisque il faut faire barrage au Front National. Donc il faut être cohérent au bout d'un moment. Voilà, c'est un second tour... J'ai pas appelé à voter blanc. Je pense pas qu'il fallait voter blanc. Je pense que quand on vote blanc, on fait le jeu du Front National. Je le pense.
D'accord.
Estrosi sait que je suis pas un homme de droite pour autant. Il est assez clair. C'est pas le problème. C'est que là, en l'occurrence, nous avons un intérêt général. Et c'est souvent ce qui me semble manquer dans notre société. C'est la conscience de l'intérêt général.
D'accord. C'est un petit peu la règle du jeu de la grande chatte. Je pourrais réagir sur quelques éléments d'actualité liés à ce dont on parle. Mouvement social incomparable, assez curieux, depuis maintenant 4 mois, avec des formes inédites. Je pense aux Nuits Debout. Les Nuits Debout, ça a quelque chose à voir avec la théâtralité. On fait forum dans la rue. C'est par rapport à ces enjeux, vous pointez dans ce festival.
Oui, moi je trouve que le festival ressemble un peu à la Nuit Debout, ou la Nuit Debout ressemble au festival. D'abord, le festival, on passe souvent des Nuits Debout à parler politique et à essayer d'imaginer autre chose. Autrement, je dirais que ce qui est peut-être le plus fort dans le festival et qui ressemble le plus à ce genre de mouvement, c'est tout simplement le fait de se réunir. Qu'on ne soit plus isolé derrière nos écrans, mais qu'on se réunisse pour s'écouter les uns les autres et parler. Sans augurer de ce que cela donnera. Et c'est ça que j'aime. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui manque, je trouve, aux politiques. Ils sont à la conquête du pouvoir et puis ne reviennent pas forcément à la base pour se dire, bon, qu'est-ce que c'est nos fondamentaux? Qu'est-ce qu'on veut? Le Parti socialiste, là, qui est en pleine explosion, il a besoin de se réunir, de voir quels sont les points les plus fédérateurs et de recréer sa base. Sinon, hein, il ne pourra jamais reconquérir le pouvoir de manière saine. Donc oui, la Nuit Debout, je trouve que ça ressemble à ce qui se passe au festival, oui.
Il est beaucoup question, alors c'est vrai que peut-être à gauche, il y a finalement une certaine difficulté à parler aujourd'hui culture et politique, mais à droite, finalement, peut-être moins. Alors, en d'autres termes, notre ancien président Nicolas Sarkozy parle beaucoup en ce moment de l'identité culturelle, c'est le terme qui remplace dans sa bouche l'identité nationale, mais on a l'impression que c'est un petit peu la même chose.
Le culturel et la culture, c'est pas la même chose, hein. Alors là, vraiment, il y a un glissement qui est extrêmement dangereux. La culture, au sens où je l'entends, et après tout, je l'ai peut-être lu aussi chez Villard, mais je l'ai lu chez Vitesse, et puis je l'ai lu toute ma vie aussi, même dans ma foi catholique. Je suis un catholique, ça veut dire universel, ça veut dire que la culture française, je m'en fiche, ce qui m'intéresse, c'est la culture. Moi, je suis autant l'enfant de Shakespeare et de Kafka que de Molière. Il y a la culture qui fonde de l'identitaire, ça, c'est vraiment la catastrophe. L'Allemagne avait un système éducationnel et culturel supérieur à tout dans l'histoire des sociétés. Donc ça ne l'a pas empêché d'accoucher du nazisme. Donc il faut se méfier. Dès que la culture devient le culturel identitaire, l'identité culturelle, moi, je sors mon carton rouge. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. La culture, elle est universelle, ou alors elle est un système clanique qui peut conduire au pire.
On parlait tout à l'heure de festival debout, de nuit debout au festival. Est-ce que la programmation, est-ce que ce festival tel qu'il se dessine et tel qu'il va être reçu, en tout cas tel que vous espérez qu'il va être reçu, comment ça va se passer avec ce climat politique au sens large du terme du pays et du monde? Je pense à l'état d'urgence qui questionne et remet parfois en cause la capacité, la possibilité de faire groupe, hein, de se réunir. De manifester dans la rue, dans les rues. Je pense à ces attentats qui font peser
au danger véritable, bien sûr.
Qui existe.
Au danger véritable.
Alors comment on fait festival, comment on fait vibrer, hein, cet amour des possibles, cet émerveillement, cet espoir avec le théâtre.
Je crois qu'on commence par le faire. Il faut le faire, déjà. Donc il faut combattre la peur. Il faut le faire. Il faut se dire que c'est important. Il faut croire aussi au fait que le théâtre est une chose politique en soi. Parce que si on pense que aller manifester, c'est plus politique que le théâtre. Moi, je ne pense pas que c'est plus politique que le théâtre, je pense que c'est politique autrement. Si on ne croit pas au théâtre, si on pense que le théâtre, c'est simplement un divertissement de luxe pour initier, alors on ne pense pas à la force politique du théâtre. Moi, je ne le pense pas, je crois que le public d'Avignon ne le pense pas. Je crois que le public d'Avignon, s'il vient à Avignon, c'est un geste politique, profondément. Donc on commence par le faire. Et puis, alors, vous me demandez comment ça va se passer. Alors, je vais vous dire un truc, je n'en ai pas la moindre idée. Tout peut arriver au festival.
Vous avez des consignes, là, préfectorales ou autres, avec des consignes
sécurité,
de restrictions dans la façon
sur
de faire.
Sur la sécurité, oui. bien évidemment. Ça nous a... Vous savez, je pense que la petite aide qu'on aura de la région, elle ira principalement aux dépenses pour la sécurité, hein, parce que... En plus, on a plutôt moins de forces de police à cause de l'euro. Donc on nous demande plus, avec moins de forces de police, à cause du foot. Donc ça veut dire qu'il faudra payer des entreprises privées pour sécuriser beaucoup plus les grands lieux du festival. Bien évidemment. Donc oui, on a des réunions avec le préfet. Tout le monde est tout à fait alerté sur le fait qu'il y a, pour les festivals en général, pas seulement pour Avignon, dans le contexte d'un état d'urgence, un véritable risque.
Et est-ce que dans le choix, finalement, dans cette programmation, est-ce que d'une façon ou d'une autre, elle est inspirée par cet état du monde, par cette marche du monde, et ces dysfonctionnements ?
Oui, très certainement. Vous savez, le théâtre ne peut pas répondre de manière aussi contextuelle. Je ne pense pas qu'on pourrait trouver au festival un spectacle qui réponde techniquement à l'article 2 de la loi El Khomri. Il n'y est pas, parce que la programmation se fait bien trop tôt pour pouvoir faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas, qu'il n'y aura pas des gens intelligents et plus renseignés que nous et plus techniques que nous qui viendront nous en parler dans d'autres endroits. Mais sur le plan des spectacles, évidemment, je citais le spectacle de Maëlle Poésie sur la situation d'un vote blanc, d'un peuple qui ne croit plus à ses représentants politiques, ça me semble extrêmement important. La question de l'Europe, alors qu'on a ce soir le vote des Anglais.
On enregistre en différé.
Voilà. C'est la maladresse
Brexit,
que je ne vais pas faire.
C'est pas grave. C'est bien le sujet.
Mais bon, voilà, le Brexit, je ne sais pas quels seront les résultats ce soir. Mais évidemment, l'Europe, c'est un sujet extrêmement important. Si nous invitons un focus sur le Moyen-Orient, bon, on pourrait après tout faire un focus sur la Belgique. Il y a beaucoup d'artistes belges au festival, mais il nous semble que le Moyen-Orient, le monde arabe, faut qu'on en parle autrement. Et surtout, il faut que des artistes du Moyen-Orient viennent nous en parler, eux. Parce que moi, je n'ai bien sûr pas de compétences à parler de la vie à Téhéran. Donc, c'est important qu'on entende ces voix-là. Et ils parlent du monde dans lequel ils vivent, que ce soit au Liban, en Palestine ou en Syrie, de manière très différente des médias. Juste différente. Autrement, je pense que c'est très bon aussi pour un citoyen d'entendre que un Syrien, c'est pas forcément une victime de Daesh. C'est aussi autre chose. C'est aussi un homme. C'est aussi un homme qui a des espoirs. C'est aussi un homme qui peut m'apporter quelque chose. C'est aussi un homme intelligent. C'est un homme qui a des amours. Un homme qui a des rêves. Et puis surtout, c'est un homme qui a cru à un certain moment à la révolution et qui a vu l'effondrement total de ce pays. Et puis, on a découvert avec la crise des réfugiés que il n'y avait pas la Syrie d'un côté et la France de l'autre. On était dans un monde de plus en plus interactif. Quand on va entendre une pièce comme Les Suppliantes d'Eschyle, qui a été écrite il y a 2500 ans, tout le monde croira que cette pièce a été écrite avant-hier pour parler de la situation des réfugiés, puisque c'est une pièce qui dit que la démocratie ne peut véritablement se définir que quand elle constitue un droit des étrangers et un droit des femmes. C'est extraordinaire d'entendre ça aujourd'hui par un poète qui a écrit ça il y a 2500 ans.
D'accord. Les femmes qui seront très très présentes dans la programmation, toujours pas de parité ?
Non, on n'y est toujours pas arrivé. Mais enfin, mes collègues, ils ne sont pas du tout arrivés. Ils sont même très en dessous de...
Un tiers, c'est ça, revendiqué ?
Oui, on arrive à un tiers. Cette année, on arrive à un tiers. Ce serait très bien si on y arrive encore l'année prochaine. Enfin, 30%. La moyenne, c'est 19% hein, dans les institutions. Donc, on est très au-dessus. La parité, j'espère qu'on y arrivera, puis peut-être même un jour plus que la parité, ou qu'on ne se posera plus la question. Il faut un petit peu de temps. Moi, comme disait Villard, donnez-moi une autre société, je vous donnerai un autre théâtre.
Ah
donc,
oui.
Oui, bah oui, quand vous me donnerez une société tout à fait paritaire, vraiment, je n'aurai plus aucune excuse.
D'accord. Donc effectivement, vous dites « je ne fais pas de théâtre politique », il ne s'agit pas de faire un festival politique au sens militant.
Au sens d'autrefois, c'est-à-dire au sens du théâtre, de ce qu'on appelait autrefois le théâtre engagé, mais vous étiez trop jeune pour connaître ça. Mais le théâtre engagé, un peu sloganiste, didactique souvent, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé ça, hein. Ce n'est pas le théâtre qui m'a fait rêver. Par contre, le grand théâtre... Le théâtre qui m'a ébloui, il avait toujours un lien politique. Et puis, qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand j'avais 20 ans déjà, ou 25 ans, je faisais du cabaret, je dirais complètement à côté, la nuit, en dehors de ma vie théâtrale et des spectacles un peu plus institutionnels ou plus sérieux que je pouvais faire. Je mettais une robe et une perruque et j'allais chanter des chansons partout sur les routes de France. C'était très politique. C'était même le plus politique. Aucun de mes amis qui étaient inscrits à lutte ouvrière n'aurait songé que ça pouvait être politique. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était politique d'affirmer d'être queer, d'affirmer la liberté de genre, de l'affirmer partout, dans des endroits qui n'étaient pas non plus des endroits conquis à cette parole. C'était très politique.
Je ne vous ai pas fait réagir sur cette actualité-là, on s'en serait passé, mais enfin, Orlando, cet attentat-là, qui en suit d'autres, hein, mais qui cible donc les homosexuels aux États-Unis.
Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans un dîner avec des amis et on parle des violences homophobes, comme ça. Des amis pas particulièrement sensibles d'ailleurs à la cause LGBT. Et je dis cette phrase, moi, je n'ai jamais subi de violences homophobes. Et je dis ça comme ça. Et en le disant, je vois défiler dans ma tête, alors même que j'avais dit cette phrase, les centaines d'agressions que j'ai pu vivre dans ma vie. Un homosexuel, en général, ne dit pas qu'il a été agressé, comme une femme d'ailleurs. Les femmes aussi sont agressées quotidiennement. Un homme ne s'en rend pas compte. Un hétérosexuel ne se rend pas compte qu'un homosexuel vit au quotidien avec la violence des cisgenres et des hétéronormés. Au quotidien, le nombre de baffes que j'ai reçues, de coups de poing que j'ai reçus, de violences verbales, de menaces de mort, comme encore récemment, sur le Front National, il y a 2 ans, les menaces de mort que j'avais, c'était sale pédé, hein, c'était toujours ça. C'est inimaginable à quel point on est habitué à vivre avec la violence. Donc, oui, ce n'est pas un crime, c'est un crime terroriste, mais c'est du terrorisme homophobe. Et le lien est absolument direct avec les intégristes, avec l'extrême droite, avec toute la société homophobe, hétéronormée, fermée à la différence, et évidemment des manifestations d'un million de personnes comme celle de la Manif pour tous, crée au quotidien des violences qui vont créer des suicides. Le taux de suicide des adolescents homosexuels est effarant, c'est effarant, je ne parle même pas des transgenres parce que c'est encore pire. C'est une vérité. Alors je suis heureux qu'il y ait des gens qui se soient levés et qui ont été courageux pour le dire. Il faut le dire, quand on est homosexuel, on vit quotidiennement avec la violence. Et par contre, politiquement, les groupes LGBT n'ont jamais commis la moindre violence, n'ont jamais interdit quoi que ce soit à l'autre, n'ont jamais agressé les hétérosexuels, n'ont jamais agressé ceux qui voulaient vivre d'une certaine manière. C'est le groupe le plus pacifique de l'histoire de la politique, et pourtant toujours un des plus stigmatisés dans le monde.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez mis en garde ceux qui pensaient ou pouvaient imaginer que le théâtre était une question de privilégiés, petit milieu. Malgré tout, on le sait, il y a un certain nombre de personnes qui ne passent pas la porte d'un théâtre, même d'un festival comme celui d'Avignon. Il y a beaucoup de choses qui sont tentées, et peut-être pas suffisamment d'ailleurs, pour que ça soit différemment.
Jamais suffisamment.
On en est où?
La démocratisation de la culture.
Dans ce grand festival d'Avignon.
Jamais suffisamment. Moi, je crois qu'on peut être fier au festival, parce que le festival n'est en rien une élite. D'abord, qu'est-ce que ce serait une élite? Une élite financière? Ben, certainement pas. Alors là, toutes les études sont là pour nous le montrer. Le gros du public du festival, c'est plutôt le lumpen prolétariat de l'éducation nationale. C'est plutôt des profs.
Les profs.
Bien évidemment. C'est certainement pas une élite financière. C'est certainement pas. Et loin de là, les pauvres. Vraiment. C'est des héros. C'est des héros oubliés. C'est certainement pas une élite médiatique, d'ailleurs, non plus. Hein. C'est pas une élite politique non plus. Donc, moi, je comprends qu'on parle d'élite quand on parle d'ex. Avec toute l'amitié que j'ai pour le festival
d'art lyrique.
Voilà, d'art lyrique, et je sais que Bernard Faucroul a fait un très très beau travail.
Le prix de la place est toujours un peu plus cher qu'à Avignon.
Un peu plus cher, avec un zéro de plus même. Voilà, les choses sont là. Après, Villard lui-même, Villard avait 2% d'ouvriers à l'époque. C'est comme ça qu'on labellisait le groupe. C'était des ouvriers. 2%. Alors, il y avait des gens qui disaient, il n'a que 2% d'ouvriers. Sartre lui disait, vous n'avez que 2% d'ouvriers. Et il y en a d'autres qui disaient, il a 2% d'ouvriers, mais c'est extraordinaire. Personne n'a 2% d'ouvriers. Personne, aucun théâtre n'a 2% d'ouvriers. C'est fabuleux. Puis 2% d'ouvriers sur la masse de spectateurs, ça fait quand même du monde.
Ils sont combien aujourd'hui, les ouvriers
aujourd'hui, on ne parle plus véritablement d'ouvriers, fort heureusement d'ailleurs.
Il y en a moins aussi dans la société française, ça doit être 5-6.
On ne stigmatise plus un groupe. Mais enfin. Nous savons en tout cas que quand nous rajeunissons le public, ça nous l'avons fait, on gagne chaque année 1 point, 2 points. C'est important, hein, c'est énorme même. En faisant des tarifications particulières, en faisant des actions particulières, on sait que quand on rajeunit le public, on le change aussi, on le métisse aussi socialement. Donc il y a un travail incessant, toujours le même, assez joyeux. Hein, faut pas imaginer que c'est ennuyeux ce travail-là, c'est un travail magnifique. Moi je suis particulièrement heureux de participer à des actions comme celle que nous faisons avec ces Chilles. On va jouer pour des gens qui sont pour la plupart jamais venus au théâtre, dans des collectivités, dans des centres de formation, dans des prisons. Moi-même, je fais un atelier en prison tout au cours de l'année.
Donc ça, pour les auditeurs, effectivement, c'est votre création dans ce festival 2016. Et ça va être un spectacle itinérant qui va aller qui sera hors mur, enfin,
oui.
En dehors des salles de spectacle et des lieux traditionnels de diffusion.
Il y en a un chaque année. Il y en a un chaque année qu'on fait. Je crois que c'est intéressant. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il faut très très peu pour que quelqu'un qui se croit éloigné de la culture, qui s'auto-exclut de la culture, brise cette auto-exclusion. Très très peu. Il faut qu'il ait vu 2-3 spectacles. Et puis ce que je sais aussi, c'est que le désir de culture, de beauté, de culture, d'intelligence, il est absolument réparti partout. Je dirais même qu'il est beaucoup plus présent dans les couches populaires de la société que dans les élites.
Alors je parlais tout à l'heure des journalistes qui adorent vous détester, qui adorent vous aimer aussi par ailleurs, mais ça dépend des moments.
Je suis un bon client, comme on dit.
Bon client.
Un bon client.
Vous avez été particulièrement quand même étrié sur vos dernières créations, l'année dernière en particulier. Est-ce que justement le choix cette année d'être sur cette petite forme décentralisée, c'est un besoin de se ressourcer, de revenir à peut-être à des fondamentaux, d'éviter un peu la cour des lions et celle du palais des papes?
Ça fait partie de ce que j'avais dit en arrivant, simplement ils n'ont pas bien écouté. Il était très clair que je ferais la cour une fois dans mon premier mandat, pas deux, bien sûr. Et puis je voulais revenir à ce projet de décentralisation des 3 km, donc il y a une année qui devait lui être consacrée. Les critiques, je ne les lis pas. Je sais que personne ne me croit quand je le dis, mais je conseille absolument à tous les artistes du monde de ne pas lire les critiques. Parce que si elles sont bonnes, on devient vaniteux. Si elles sont mauvaises, on se croit vain. Donc, il ne faut pas lire les critiques. Ça ne s'adresse pas d'ailleurs aux artistes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas les lire. Ce n'est pas bon. Mais je me suis informé. Les critiques françaises ont été mauvaises. Les critiques étrangères ont été absolument dithyrambiques. Et puis, le soir, il y avait 2000 personnes debout qui applaudissaient. Bon, moi, ça me suffit. Qu'il y ait eu quelques personnes qui fassent « ou » le soir de la première, dont certains, à mon avis, appartenant au Front National. Bon, c'est la loi du genre, moi, j'ai l'habitude. Le nombre de fois où j'ai été hué dans ma vie à une première, récemment, sur Aïda, j'ai été copieusement hué. Je suis toujours, presque toujours hué. J'ai l'habitude. Quand j'ai fait la cour il y a 10 ans, j'ai été hué à peu près de la même manière, même de manière plus dure. Et la moitié du public était partie, ce qui n'était pas le cas sur Le Roi Lear.
Alors, il y a une critique qui est faite souvent aux politiques, aux élus, qu'on reçoit dans cette émission régulièrement, c'est celle de cumuler les mandats. Est-ce que si vous, on vous dit, mais Olivier Py, il veut trop faire, il écrit, il joue, il réalise, il dirige, il fait de l'opéra, est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que c'est une dynamique? Ça enrichit chaque segment du projet? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut accepter de ralentir?
Vous comparez l'incomparable, ce n'est pas des mandats. Excusez-moi, Je sais pas des mandats. Moi, j'ai pas deux mandats de la République, j'en ai un seul. Donc, c'est pas des mandats. Est-ce que je travaille beaucoup? Ouais, je crois que je travaille beaucoup. Certains jours, je me dis ça, oui.
Ouais.
Je travaille beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup. Je travaille une centaine d'heures par semaine, je pense. Mais c'est...
Ça va pas relancer le débat sur les 32 heures.
Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que je travaille une centaine d'heures par semaine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si jamais j'ai un peu de temps libre, oui, je me dis que je vais l'occuper à écrire un livre. C'est vrai. Mais j'ai toujours vécu comme ça. Même à l'école, vous savez. Même à l'école, j'adorais travailler. Mais mes parents avaient tendance à me dire « arrête de travailler » quand j'étais en sixième.
C'est rare.
Bah oui, mais c'était comme ça. J'aimais travailler, ouais.
D'accord. Je vous reviens sur cette expression que vous avez utilisée, que ce n'est pas une expression, c'est une idée, c'est des pratiques, c'est cette décentralisation des 3 km. Ce n'est pas toujours compris. C'est quoi l'enjeu là-dessus?
Bon, ça voudrait dire que la décentralisation de Villars, c'était 300 km et même un petit peu plus. Mais c'est-à-dire qu'il fallait aller de Paris aux grandes villes de France. Bien, ben ça c'est fait, hein. À moins que ça ne soit défait. D'ailleurs, c'est en train de se défaire. Le réseau de la décentralisation est un véritable trésor national. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on y touche. C'est pour ça que je serai toujours là pour râler et pour crier plus fort que les autres dès qu'on y touche quelque part. Ou que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Faut pas toucher à ça. C'est ça qui fait la France. C'est la beauté de la France. Hein. C'est beau comme les cathédrales, la décentralisation française. Donc, il ne faut pas y toucher. Mais la décentralisation, aujourd'hui, ce serait peut-être aussi d'aller du centre-ville au quartier. Là, il ne faut pas faire 300 km, il faut en faire 3, même pas, il faut en faire 900 à Avignon. Voilà comment j'ai lancé cette idée de décentralisation des 3 km. Alors, quand on part avec ce petit spectacle, 3 km plus loin que le centre-ville, quelquefois, on met les trompettes d'Avignon sur un ghetto blaster, parce qu'on n'a rien d'autre. Et je retrouve l'origine même du festival. J'ai l'impression que je suis en 47. Des gens assis sur des chaises et puis les trompettes mises comme ça sur un ghetto blaster. Très bien. C'est beau. C'est magnifique. Je le fais d'abord par amour de l'art. Hein. Vous savez, c'est le plus important. Et d'abord, il faut amener un objet artistique. Brecht disait ça. Hein. Qu'un spectacle soit politique. C'est bien, mais il faut d'abord que ce soit un beau spectacle. Et s'il est politique en plus, c'est mieux. Mais d'abord, il faut un beau spectacle.
Parce que cette ville, on le sait, on ne le sait pas toujours, elle est très pauvre. Hein. C'est la plus
pauvre
de la région PACA. Enfin,
on ne le sait pas, on ne le croit pas. On ne croit pas que cette ville est si pauvre.
Et elle est très fractionnée. Il y a le centre, la périphérie, c'est très fort. Il y a les remparts aussi des hypermarchés qui entourent qui encerclent la ville.
Oui, il y a les murs. Il y a cette espèce de boulevard périphérique aussi qui coupe. C'est une ville très pauvre. C'est paradoxal, parce que c'est une ville très riche dans son histoire et dans son patrimoine. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville-là, sa richesse, effectivement, je m'excuse encore pour la métaphore du pétrole, sa richesse, elle tient à la culture. Donc il y a quelqu'un qui m'a attrapé dans la rue l'autre jour, qui était d'ailleurs très amusant, et qui me disait « Oui, alors vous, Olivier Py, votre réponse à tout, c'est le théâtre. Alors, voilà, il n'y a pas de beurre, mais il y a du théâtre, il n'y a pas de pain, mais il y a du théâtre, il n'y a pas d'électricité, mais il y a du théâtre. » Bon, c'est vrai que des fois, je suis un peu comme ça, hein, j'ai un peu tendance au lyrisme. Mais au fond, je l'écoutais parler, puis je disais « Mais vous savez, en soi... vous avez raison, le théâtre ne peut pas se mettre à la place de tout, ça c'est certain. Mais particulièrement là, dans cette ville qui s'appelle Avignon, oui, c'est vrai. Bien sûr que le théâtre c'est le beurre, bien sûr que le théâtre c'est le pain, bien sûr que le théâtre c'est l'électricité. Bien sûr, le Festival Avignon fait vivre une personne sur 4. Bien sûr, tout le monde le sait à Avignon. C'est fondamental. C'est pour ça que le festival ne peut pas être fermé. À des mondes qui peuvent lui paraître étrangers. On a initié ce mouvement French Tech, French Tech Culture. Étrangement, hein, une institution service public qui tend la main à des entreprises du numérique. On pourrait penser que le numérique, ça s'oppose aux arts de la scène. Pas du tout, moi je ne pense pas. Donc, le festival ne peut pas ne pas avoir conscience de la responsabilité qu'il a. Si mon travail, c'était uniquement de faire une belle liste de 40 spectacles, d'arriver début juillet et de repartir fin juillet, je crois qu'il ne me passionnerait pas autant.
Alors, les journalistes qui aiment bien commenter, des fois, pas toujours, j'aime bien cette profession, des petits faits ont beaucoup glosé sur votre apparition lors de la conférence de presse du OFF. Est-ce que on se dirige vers l'abolissement d'une frontière?
Ah mais non, mais n'importe quoi.
Non mais voilà, comment interpréter ce signe-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait le...
Mais il n'y a pas besoin de l'interpréter, il n'y a qu'à le prendre pour ce qu'il est. Le directeur du Festival d'Avignon vient à la conférence de presse du OFF pour affirmer qu'il n'y a pas de guerre, bien au contraire, qu'il y a une amitié, qu'il peut y avoir, en ce qui me concerne, une admiration même pour certains artistes du OFF, qu'il y a une solidarité absolue entre le festival et les artistes du théâtre public qui jouent dans le OFF, et que nous espérons un bon OFF. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à vouloir que le OFF soit le meilleur OFF possible. Que ce ne soit pas le lieu du divertissement et du commercial, et que ça reste un festival de théâtre. Voilà ce que je suis venu dire. Et puis je le dis absolument... Sans avoir peur d'être taxé de démagogie, parce que d'abord j'ai commencé dans le OFF, et puis que la première chose que j'ai faite, c'est de jouer dans le OFF un an avant d'arriver au Festival d'Avignon. Donc voilà, puis j'ai des camarades qui travaillent dans le OFF et avec qui on peut imaginer des choses. Donc oui, il y a des frontières. Il y a une frontière, oui. Il est bien évident que ça ne voudrait strictement rien dire, ni sur le plan structurel, ni sur le plan historique. Le OFF est là parce qu'on ne peut pas programmer tout le monde. Franchement, je le regrette, vous savez. Je dis peut-être oui 40 ou 50 fois. Pour ça, il faut imaginer chaque fois autant ou 10 fois plus de noms de spectacles que j'aimerais programmer. Alors, ceux qui veulent venir à Avignon, puisque je ne peux pas programmer tout le monde, c'est très très bien qu'il y ait le OFF.
D'accord. Pour autant, dans le programme du IN, il y a pas encore, on pourrait imaginer qu'il y ait un clin d'œil, une passerelle, une billetterie commune. Il y a quelque chose déjà, c'est ça.
Attention,
il y a pas d'image.
Il y a deux pages qui sont consacrées, qui s'appellent Un off des off, Avignon c'est aussi, magnifique. Et dans lesquelles nous faisons une sélection de spectacles qu'on peut voir dans le off.
C'est une première ou ça avait déjà
existé ? C'est une première.
C'est une première.
Enfin, c'est une première, non, c'est depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire c'est la troisième fois que nous le faisons. Bien sûr, c'est partial, et puis il ne s'agit pas de faire un deuxième programme du OFF, c'est une sélection. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très prescriptif. En tout cas, ce que m'ont dit ceux qui avaient été dans ce programme, c'est que le public est guidé par ces propositions.
Parce que le travail de programmation que vous faites dans le IN, c'est justement un travail de choix, de sélection.
Oui, ce n'est pas le cas du OFF. Dans le OFF, ceux qui veulent y aller, ils vont. Mais il n'empêche qu'on peut quand même faire une sélection, et notamment, je le dis, en faveur du théâtre public, auquel j'appartiens. Et donc on peut faire une sélection dans ces spectacles-là. C'est la nôtre. On peut en faire d'autres encore, bien sûr.
D'accord. Alors, vous avez... Le mandat dure combien de temps ? Quatre ans. Vous pensez que vous allez pouvoir, dans cette durée qui vous reste, faire bouger justement les lignes? Alors sur des éléments, c'est déjà le cas, vous avez impulsé des choses, mais par exemple sur cette question dont on parlait des 3 km, sur l'élargissement du public.
On l'a fait.
On peut faire bouger une institution, c'est une institution, le festival, c'est très lourd. C'est combien de personnes déjà, au plus fort, un millier de personnes?
Non, un peu moins, 700 pendant le festival, 29 pendant l'année. Donc c'est une institution à la fois très légère et très lourde. Elle est moins lourde, en un sens, moins rigide qu'un théâtre national. Je sais de quoi je parle. Si ce n'est que c'est un festival, ce n'est pas un théâtre. On ne la fait pas évoluer tous les jours ou tous les soirs. On la fait évoluer d'un festival à l'autre. Bon, c'est notre troisième festival. Donc pour l'instant, j'en ai que deux derniers mois pour dire... Pour faire le bilan, je pense que ça a déjà beaucoup évolué. Le festival a beaucoup évolué. Voilà, je serais ravi de continuer à le faire évoluer, bien sûr.
On va peut-être terminer là-dessus, l'émission va se terminer. Les élus, les politiques, puisque c'était un peu le fil conducteur de cette émission, la politique et les politiques, souvent quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent ministres, etc., ils découvrent finalement que l'institution est un poids, que le pouvoir est souvent ailleurs que là où on le croit. Vous êtes à la fois artiste et puis directeur de structure, hein, donc autrefois l'Odéon, maintenant le Festival d'Avignon. Vous avez l'impression qu'à travers ces outils, ces gros outils qu'on vous confie, il y a des possibles, ou peut-être parfois l'envie de prendre un chemin de traverse et de revenir à des choses plus légères et peut-être...
Ça n'est pas incompatible. J'ai été directeur de structure et d'institution à 30 ans. Donc, ça fait 21 ans que je vis des choses comme ça. J'ai toujours pensé que, bien que l'institution s'appelle l'institution, le mot institutionnel, je suis comme vous, je ne l'aime peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que cette institution particulière, qui était le théâtre public, elle permettait la liberté. C'était pas du tout un académisme ou un art d'État qui était demandé au théâtre public. Bien au contraire. Elle permettait une totale liberté, tout simplement parce que cette liberté était débarrassée de certaines contraintes économiques. Et puis, j'aime travailler sur le plateau, mais je l'ai dit, j'ai une passion pour la tarification. C'est-à-dire que un homme de théâtre ne doit pas s'occuper que du plateau, à mon avis. Il doit aussi s'intéresser au public, à la relation qu'il va créer avec le public. Qui vient nous voir et comment et pourquoi et quel public on rêverait de toucher. Ça, ce sont des questions de théâtre, tout autant que répertoire par répertoire, esthétique du jeu, etc. Est-ce que quelquefois l'institution pèse ? Oui, c'est le propre des institutions. Oui, c'est certain. Il y a certains jours où j'ai envie de reprendre ma robe à paillettes et d'aller dans l'heure de grande chanter des chansons. Ça, c'est certain. Il y a quelquefois une tentation, une petite tentation. Ça arrive. Mais enfin, ces jours sont minoritaires et j'ai envie de continuer à défendre le festival que j'aime plus que tout.
Très bien, donc vous confirmez que vous n'allez pas quitter la direction du festival dans les 4 jours qui arrivent, parce que ce serait dommage, le festival
non,
va démarrer
non,
le 6, c'est ça ?
Je peux absolument vous confirmer, d'ailleurs, que je suis candidat pour un autre mandat, je peux le dire, puisque j'en ai averti mes tutelles.
Merci Olivier Pi pour cette émission.
Merci à vous.
Au revoir.